Chapitre 7. 1999.
C'est un pouce au crime d'être aussi bon.
Flo mange encore 3 frites brunes, puis balance le reste de sa poutine dans la poubelle la plus proche. Elle dresse fièrement le poing, comme si elle venait de marquer un panier à 3 points.
Yes! 10 frites par poutine, pas une de plus. Et jusqu'à ce qu'on ait redécollé, pas plus de 5 vodkas par soir.
Elle éclate de rire et part coller son visage au fast-food d'en face. Elle s'y écrase le nez, emprisonnée derrière la vitrine.
Ah, tentation, tentation!
Elle croise ses doigts en croix.
Arrière, démon, tu pourrais au moins m'encourager, ma vilaine!
Je ne réponds pas. J'observe, subjuguée, le vieux Montréal. C'est la première fois que je mets les pieds au Québec et j'aime tout. L'accent des commerçants, les chansons tordantes à la radio, l'impression de marcher dans un immense campus où tous les habitants ont moins de 30 ans. La gentillesse des passants, ce décor de Far West d'opérette, tout l'inverse d'un western spaghetti, plutôt de western tartiflette. Cette sensation, à chaque conversation, de débarquer chez un cousin qu'on n'a jamais vu, mais qui vous accueille comme s'il vous connaissait depuis toujours. Flo suit du regard 3 jeunes Canadiens qui passent, épaisse chemise ouverte sur un t-shirt des Toronto Raptors.
« Pas le choix », soupire-t-elle. « Si je veux me trouver un mec, la diète. Toi, tu t'en fous, t'en as 2. Alors, raconte, ton guitariste à casquette. »
J'épie les alentours, comme si quelqu'un pouvait nous écouter. Comme si parler suffisait à me ronger de culpabilité. Florence perçoit mon trouble et me pousse dans le premier magasin venu, une sorte d'hypermarché d'artisanat nord-canadien. Elle quémande des confidences du regard. Je repère un rayon près des bijoux, pas loin des caisses, déserté par les touristes. On a échangé 3 phrases dans l'avion. Il est sympa, drôle, cool. Mais je suis mariée, ma grande, vieille mariée et jeune maman.
Je sais. Avec Joseph.
Ça n'a pas empêché Marie de le tromper avec un ange tombé du ciel.
Alors accouche, c'est quoi la suite?
Quelle suite?
Tu vas le revoir?
Non, évidemment que non. Flo pose son pouce, son majeur et son index sur son nez, puis le tire pour l'agrandir.
Pas à moi, ma grande. Tu ne sais pas mentir. Va falloir t'entraîner avant de rentrer embrasser Geppetto à la menuiserie.
Je me tortille, gênée. Moins par Flo d'ailleurs que par le regard perçant de la vendeuse derrière sa caisse. Une femme très brune, le visage tirant presque sur le rouge, déguisée en esquimaude. Peut-être pas déguisée d'ailleurs. On dirait une vraie. Figée comme une statue de glace sur la banquise, attendant le passage du traîneau.
Si tu veux tout savoir, il m'a invitée à écouter les Cure. Dans les backstage.
Je peux le retrouver dans un bar à côté du Métropolis, 1 heure avant le concert. Flo en a le souffle coupé, un court instant.
Salope! Tu seras la seule à pouvoir mater le cul de Robert. Et il te plaît, l'Eric Clapton écossais?
Il est surtout Roddy, tu sais.
Tu ne m'as pas répondu. Il te plaît?
Il me déplaît pas. Il ressemble beaucoup à Olivier.
Geppetto?
Oui, Olivier, quoi, mon mari.
En plus beau?
Non, même pas.
En plus neuf?
J'ai pas l'impression qu'Olivier soit usé.
En plus quoi, alors?
J'aurais pu répondre, en plus rien. Ce garçon n'a rien de plus qu'Olivier. C'est un parfait inconnu. Un sourire, 3 mots échangés, ça s'arrête là. C'est juste un passager sympa. J'aurais dû répondre ça. Le regard de l'Inuit dans mon dos m'en empêche. Sa seule présence semble m'obliger à avouer la vérité. En plus fou. Flo me fixe, presque aussi intensément que l'esquimaude gelée. Elle envoie danser d'une chiquenaude les attrape-rêves au-dessus de nos têtes, fronce les sourcils.
Tu aimes ton mari?
finit-elle par me demander.
Oui.
J'ai répondu sans hésiter. Sa réponse claque plus vite encore.
Alors fonce.
Fonce où?
Fonce à ce rendez-vous. Fonce dans ce bar. Fonce à ce concert.
Tu déconnes. Un couple de touristes français circule dans le rayon derrière nous. Je les reconnais. Ils étaient dans l'avion. Flo m'entraîne un peu plus près de la caisse.
Fonce, je te dis. Il ressemble à ton Olivier en mieux. Alors, tu l'étudies. Dis-toi que c'est un moyen d'améliorer ton mari. De repérer ce qui manque encore à ton couple. De viser la perfection. Et puis surtout, dis-toi qu'en te rendant à ce rendez-vous, ce n'est pas toi qui cours un danger.
Pourquoi ? Florence lève les yeux au plafond, couvert de fourrure de bison.
Regarde-toi, Nathalie. T'es belle. T'es tout sourire. T'es romantique. T'es plus croustillante qu'une frite à la sauce brune dans une poutine. Crains rien. Tu vas garder la main. C'est toi qui vas lui faire perdre la tête à ton Jimi Hendrix à casquette.
Je sens le regard de la caissière inuite planté dans mon dos, aussi froid qu'une stalactite. Un poignard glacé qui atteint mon cœur brûlant. C'est peut-être ce que j'attends au fond. Qu'il gèle, qu'il ne batte plus, qu'il ralentisse au moins, que mon cerveau puisse reprendre le pouvoir. C'est loin d'être gagné. Flo insiste.
Et ne viens surtout pas jouer la victime de la fatalité. T'as un mari qui garde ta gamine pendant que tu vas faire la fiesta aux quatre coins du monde. T'es la plus cool de toutes les célibataires comme meilleure copine. T'as quasi un amant. Et Mirabelle sur le clafoutis, tu vas voir un concert dont rêvent toutes les filles qui ont eu 20 ans il y a 10 ans.
Je tente de pousser une dernière issue de secours.
Va le voir à ma place si tu y tiens tant. Eh non, idiote. C'est ton destin, pas le mien.
Je lui prends la main. Je tente de me persuader qu'un simple rendez-vous dans un bar n'engage à rien.
J'ai un peu peur.
Alors viens. Nous allons sortir toutes les deux quand une voix nous interpelle, juste derrière nous.
Mademoiselle.
Instinctivement, je sais que la femme derrière la caisse s'adresse à moi. Je me retourne. L'Inuit tient dans ses mains un petit galet gris de la taille d'un œuf de caille.
Pour vous, mademoiselle. C'est une pierre de temps.
Florence reste en retrait, silencieuse. Comme je l'ai deviné, la commerçante ne s'adresse qu'à moi.
N'ayez pas peur. Prenez.
Elle laisse tomber la pierre au creux de ma paume. C'est un caillou normal, joli, poli, sans autre particularité. J'esquisse le mouvement de le rendre à l'Inuit. Elle retient mon geste.
Savez-vous ce qu'est une pierre de temps, mademoiselle ?
Elle me laisse réfléchir pendant quelques secondes avant d'expliquer.
Le temps, mademoiselle, est un long fleuve. Il ne s'arrête jamais. Il coule toujours dans le même sens. Et pourtant, il est impossible de voir à quelle vitesse chacune des gouttes avance. Elles se ressemblent toutes, n'est-ce pas? Comment savoir si l'une est plus pressée ou si une autre traîne en route? Ou si l'une d'elles s'arrête, laissant le reste de la rivière continuer?
Je l'écoute, intéressée. Je trouve son baratin bien rodé, même si je n'ai aucune envie d'acheter la pierre magique qu'elle essaiera de me refiler ensuite.
Il existe pourtant un moyen, mademoiselle, de repérer ces gouttes qui s'arrêtent, ces bulles d'éternité qui laissent le fleuve s'écouler. Certains Esquimaux savent les reconnaître. Elles laissent des traces sur les pierres, au fond du lit des rivières, des traces invisibles à qui ne sait pas regarder. Mais les sorciers inuits peuvent rester des jours entiers à fixer l'eau vive avant d'en repérer une.
Elle me force à serrer le poing sur la pierre.
Celle-ci est pour vous.
J'entends le rire discret et moqueur de Florence derrière nous.
Et elles servent à quoi, ces pierres magiques? À remonter le temps,
répond sérieusement la commerçante inuite.
Le jour où vous en aurez besoin. Le jour où vous le voudrez vraiment.
Florence éclate de rire, sans se retenir cette fois. Comme dans Retour vers le futur. Sur le moment, j'en veux à Flo de rompre le charme. J'aime la poésie de cette femme, même si elle n'est destinée qu'à extorquer aux touristes quelques dollars canadiens. Non, sourit la vendeuse. Ces pierres ne permettent pas de retourner dans le passé, et encore moins de le changer. Elles permettent seulement d'en revivre des bribes. Des petits éclats de temps, des confettis. Je vous l'ai dit, le temps, comme le fleuve, ne s'arrête jamais. Il coule toujours dans le même sens. Mais quelques gouttes, juste quelques gouttes qui surgissent du passé, peuvent suffire à changer la direction d'une vie. J'ouvre le poing. Merci, c'est une très belle histoire. Je vais vous rendre cette pierre, elle est trop précieuse pour moi. L'Inuit me regarde intensément. Elle est pour vous, mademoiselle. Je vais avoir du mal à m'en débarrasser sans sortir des billets. Je continue néanmoins de sourire. Ça ne m'intéresse pas, vraiment. Et je suis trop jeune pour penser au passé. Prenez, je vous en prie. Prenez-la. Elle referme mon poing sur la pierre de temps. Je hausse le ton. Je sens Florence s'impatienter. Je suis désolée, quel qu'en soit le prix, je ne vais pas vous l'acheter. Je vous l'offre, dit doucement la commerçante. Je reste poing serré, stupéfaite. Vous venez de me certifier que ces pierres sont rares, uniques, précieuses et convoitées. Pourquoi l'offrir à une étrangère? La femme plante ses yeux dans les miens. Je sais bien que ce n'est qu'un truc commercial, offrir un caillou à une touriste naïve pour gagner sa confiance, pour qu'elle revienne acheter un autre bibelot. Parce que vous êtes amoureuse, répond l'Inuit. L'amour ne dure pas. L'amour est aussi fragile qu'un collier. Mais la pierre de temps permet d'en conserver les plus belles perles. À jamais.